Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Monseigneur Pietro Parolin, un diplomate choisi par le pape François pour devenir, dès le 15 octobre, le nouveau secrétaire d'État. C'est à lui qu'incombera la tâche délicate de seconder le pape dans les affaires politiques et diplomatiques du Saint-Siège. Nous en parlerons avec Éric Lebec, ancien conseiller diplomatique. Une réunion sommet s'est tenue ce samedi au Vatican autour du pape. Tous les prélats en charge de la diplomatie ont rencontré François en la Maison Sainte-Marthe. Il s'agissait de discuter du dossier syrien et des moyens de favoriser la paix dans le pays. Alors que l'éventualité d'une frappe occidentale se précise, nous rediffuserons un entretien avec le cardinal Robert Sarra, président du conseil pontifical Coronum, entretien réalisé à son retour fin février des camps de réfugiés syriens en Jordanie. Puis rediffusion également d'un livre pour Dieu de sœur Catherine Aubin avec Jean-Michel Dunan. Pour vivre au grand jour, il a choisi d'écrire et de raconter son itinéraire dans son livre « Libre de la honte à la lumière ». Enfin, le commentaire de l'évangile de ce dimanche avec le père Pascal Montavi. Près de 6 mois après son élection, le pape François a donc nommé ce samedi le nouveau secrétaire d'État. Il s'agit de l'Italien Monseigneur Pietro Parolin, 58 ans, actuellement nonce apostolique au Venezuela. Originaire de Vénétie, dans le nord-est de l'Italie, né le 17 juin 1955, il remplacera le 15 octobre le cardinal Tarcisio Bertone. Les précisions d'Olivier Tosseri.
Avec cette nomination, on assiste à un rajeunissement de la fonction. À 58 ans, Parolin est le plus jeune secrétaire d'État du Vatican depuis Pie XII en 1930. C'est un diplomate chevronné. Reconnu comme loyal et compétent, il a servi au Nigeria et au Mexique avant d'être nommé numéro 3 de la diplomatie vaticane en 2002. Il y a montré ses qualités de dialogue et sa discrétion sur des dossiers comme le rapprochement diplomatique entre le Saint-Siège et le Vietnam ou encore les rapports entre le Vatican et la Chine ou Israël. Il y remporte quelques succès, ce qui lui vaut sa nomination comme nonce apostolique à Caracas au Venezuela en 2009, un poste délicat dans un pays où le gouvernement d'Hugo Chavez entretenait des relations difficiles avec l'Église catholique locale. Le voici maintenant à la tête du gouvernement de l'Église universelle. Quel sera son style ? On peut déjà penser qu'il sera marqué par celui de la diplomatie vaticane. Réalisme, connaissance approfondie des dossiers, recherche du meilleur consensus possible. Monseigneur Parolin maîtrise des dossiers délicats qui s'annoncent cruciaux comme ceux de la Chine et du Moyen-Orient. François fait également appel à un homme de confiance, capable de l'épauler et de conduire avec lui des réformes indispensables, en particulier au sein de la curie romaine.
Réaction immédiate de Mgr Parolin après sa nomination. Depuis Caracas, le nouveau secrétaire d'État a exprimé sa profonde gratitude au Saint-Père pour, je cite, « cette confiance imméritée ». Le prélat a renouvelé sa volonté totale et sa disponibilité à collaborer avec François pour le bien de l'Église et la paix à travers le monde. Mgr Parolin, c'est donc à lui qu'incombera la délicate tâche de seconder efficacement François dans les affaires politiques et diplomatiques du Saint-Siège. Mais qu'est-ce que la secrétairie d'État? Comment est-elle organisée? Quel est le rôle du secrétaire d'État? Ce rôle sera-t-il remodelé avec l'arrivée de ce nouveau diplomate? Autant de questions que nous avons posées à Éric Lebec, journaliste et écrivain, ancien conseiller diplomatique pour le Saint-Siège.
On connaît aujourd'hui Mgr Parolin par son poste au Venezuela, mais il a eu auparavant des responsabilités très importantes à la secrétaire d'État qui l'ont conduit à la conférence pour la paix au Proche-Orient à Annapolis en 2007 et puis plusieurs missions beaucoup plus discrètes au Vietnam. C'est donc un homme parfaitement au courant des priorités les plus urgentes de l'Église. Je dis bien de l'Église, de la liberté de croire et de prier, plutôt que la diplomatie au sens général.
C'est donc un fin diplomate très estimé ici au Vatican, que le pape Bergoglio a lui-même connu auparavant.
Il ne fait pas de doute que l'ancien archevêque de Buenos Aires a pu connaître, entendre parler, rencontrer ce nonce au Venezuela, un pays très actif et où par conséquent les diplomates doivent être toujours sur le pont. Toutefois, le fait de choisir un pur diplomate indique à mon avis que, en effet, le Saint-Père a l'intention d'avoir un service diplomatique qui ne s'occupe que de diplomatie, et c'est beaucoup de travail, et non pas du gouvernement général de l'Église. Je ne pense pas que le futur secrétaire d'État sera la sorte de premier ministre qu'était devenu la secrétaire d'État. C'est le souci de la réforme du Saint-Siège.
Donc vous pensez que par cette nomination, François procède à une redéfinition du secrétaire d'État ?
Oui, je pense. Et voyez-vous, les précédents secrétaires d'État, surtout Bertone, avaient été archevêques de grandes villes, c'était des pasteurs. Alors que là, on a un secrétaire d'État qui est diplomate et qui n'est que diplomate, qui n'a pas été archevêque d'une grande métropole, président de conférence épiscopale. Donc c'est un petit peu la rançon du succès. Le service diplomatique du Saint-Siège est devenu tellement estimé, tellement important, il suffit d'occuper un homme, et un homme de qualité. Il est clair que le pape François, en choisissant son saint patron, a défini la mission essentielle du rôle du Saint-Siège dans le concert des nations, c'est d'être une parole de paix. Et au moment où il y a des bruits d'avions au-dessus du Proche-Orient, de la terre du Christ et des apôtres, eh bien, c'est très important de s'en souvenir, parce que la guerre est toujours un échec.
A noter par ailleurs que le pape a confirmé à leur poste Mgr Becciu, substitut pour les affaires générales, Mgr Mamberti, secrétaire pour les relations avec les États, Mgr Genschwein, préfet de la préfecture de la maison pontificale, Mgr Wells, assesseur pour les affaires générales, et Mgr Camilleri, sous-secrétaire pour les rapports avec les États. Et le pape François a reçu samedi matin à la maison Sainte-Marthe de manière collégiale tous les prélats responsables de la diplomatie au Vatican, ainsi le cardinal Bertone et Mgr Mamberti, le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, et quelques autres prélats. Il s'agissait de discuter de possibles initiatives du Saint-Siège pour promouvoir la paix en Syrie. On sait que le Vatican et le pape sont contraires à une intervention militaire dans le pays. Or, on s'attend à une frappe occidentale à tout moment après le départ ce samedi des experts de l'ONU. Paris et Washington se montrant déterminés à agir contre le régime accusé d'avoir tué des centaines de personnes dans une attaque chimique. Les habitants de la capitale syrienne redoutent donc une frappe. Certains quittent Damas, d'autres se disent résignés. D'autres Syriens encore, par centaines de milliers depuis 2 ans et demi, que dure cette crise syrienne, sont depuis des mois dans des camps, dans les pays voisins. Désormais, 2 millions de Syriens ont quitté leur pays. 700 000 sont au Liban, 500 000 en Jordanie, 400 000 en Turquie, 150 000 en Irak. En février dernier, un émissaire du pape les rencontrait en Jordanie, le cardinal Robert Sarra, président du conseil pontifical Coronum. De retour à Rome, il se disait bouleversé par les attentats qui avaient alors frappé Damas et il demandait la fin des livraisons d'armes qui entretiennent le conflit syrien. Écoutons-le, interrogé donc fin février par Hélène Détombe.
Tant qu'on ne cessera pas d'armer et le gouvernement et l'opposition, cette tragédie continuera tous les jours pratiquement. Il y a des morts, tous les jours il y a des morts. Et souvent des gens innocents, des enfants. Bon, chacun se lance la balle, c'est pas moi, c'est l'autre. Je crois qu'il faudrait arriver à ce que les armes n'arrivent plus en Syrie. Tant qu'on continuera à fournir des armes, nous aurons toujours ces tragédies, tous les jours pratiquement. Et c'est dommage, c'est très dommage, parce que des vies humaines sont détruites. Je regrette profondément vraiment cette violence qui ne s'arrête pas.
Et partons pour la Roumanie. Descendant princier, diplomate et infatigable soutien aux déshérités de la banlieue parisienne à l'Europe de l'Est, le prêtre roumain Vladimir Ghica, mort dans les geôles communistes en 1954, était béatifié ce samedi à Bucarest. Nous accordons que le vénérable serviteur de Dieu Vladimir Ghica, prêtre diocésain et martyr, pasteur zélé et témoin tenace de la charité divine, puisse désormais être appelé bienheureux, a déclaré le cardinal Angelo Amato, représentant du pape François, en lisant sa lettre apostolique. La béatification d'aujourd'hui doit être vue comme un signe prophétique de réconciliation et de paix, comme mémoire d'un triste passé à ne répéter en aucune manière, a estimé Mgr Amato dans son homélie. Environ 8000 fidèles ont assisté à la messe, venus de Roumanie, mais aussi de l'étranger, notamment de France, où Mgr Ghica a étudié et exercé comme prêtre au diocèse de Paris. 200 prêtres catholiques, le cardinal français André 23, des représentants d'autres religions étaient également présents, ainsi que des dissidents de la dictature communiste roumaine. Écoutons le cardinal 23 juste après la cérémonie.
C'était une très belle fête dans un hall d'exposition avec plusieurs milliers de personnes très ferventes, une messe où les fidèles ont beaucoup participé. Le cardinal Amato a procédé à la béatification au nom du Saint-Père et ça a été un moment de grande émotion. Donc il y a une communion spirituelle très réelle et très forte qui existe avec sa mémoire et avec son ministère qu'il a exercé à Paris pendant plus de 15 ans, aussi bien à la chapelle des étrangers de la rue de Sèvres qu'à Villejuif, où il était allé s'installer dans un bidonville pour vivre plus près des pauvres.
Vous parliez du souvenir en France, notamment de Mgr Guica. J'ai interviewé Mgr Brizard il y a quelques jours, qui me disait que cette figure catholique avait été oubliée en France, mais pas en Roumanie, dont les enseignements étaient encore très présents en Roumanie. C'était votre sentiment aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Sa mémoire est très vivante. D'abord parce qu'il appartenait à une grande famille de Roumanie, dont le nom est toujours connu en Roumanie, et puis aussi en raison de sa présence pendant la Deuxième Guerre mondiale et de son martyr sous le régime communiste.
Et retrouvons à présent la rubrique de Sœur Catherine Aubin, Livre pour Dieu, avec une rediffusion estivale de son entretien diffusé en décembre avec Jean-Michel Dunant. Pour vivre au grand jour, il a choisi d'écrire et de raconter son itinéraire dans son livre « Libre de la honte à la lumière ». Il raconte comment, à l'adolescence, il prend conscience qu'il est homosexuel et l'a toujours été. La foi intense qui anime sa vie, son aspiration au sacerdoce, se heurte douloureusement à la position de l'Église sur l'homosexualité. Après de longues années de déchirement intérieur et de souffrance, l'auteur finit par assumer son homosexualité sans pour autant renoncer à sa foi. Dans les années 2000, il fonde en lien avec des monastères la Communion Béthanie au service des personnes homosensibles et transgenres. Tout un parcours de réconciliation qu'il livre avec courage et honnêteté en appelant l'Église à la rencontre de l'autre différent. Écoutons-le.
Jean-Michel Dunant, le titre de votre livre, c'est « Libre, de la honte à la lumière ». Et vous écrivez dans ce livre « L'amour est de toute beauté, il a été salvateur, il m'a permis de ne plus me percevoir comme infecté par l'homosexualité, comme on peut l'être par un virus ». Jean-Michel Dunant, le pourquoi de ce livre ?
Tout simplement, en reprenant la phrase que j'ai mise en exergue de mon livre « Donne ta note juste, juste ta note ». Mon livre n'est que simplement mon témoignage. C'est ce que j'ai vécu et ce que j'essaye de vivre aujourd'hui.
Quelles ont été les grandes étapes qui vous ont permis de dire aujourd'hui, catholique et homosexuel, je veux vivre ma foi et ma différence ?
J'ai découvert à la fois la beauté du Christ et en même temps cette réalité de mon homosexualité, je ne l'appelais pas encore comme cela bien sûr dans mon enfance, quasiment en même temps. Et ces deux réalités ont grandi en moi jusqu'à provoquer un vrai écartèlement, des moments très difficiles, des moments où j'avais beaucoup de mal à m'estimer moi-même, à accepter un regard de compréhension et de bienveillance de la part des autres. Finalement, un long parcours de la honte, c'est pourquoi le sous-titre de mon livre est « De la honte vers la lumière ». Et puis progressivement, grâce à des rencontres, grâce à une fraternité, grâce aussi à cette intimité, je le crois, avec le Christ, eh bien, je suis tout doucement arrivé, si ce n'est à la lumière, en tout cas à l'aurore.
Vous êtes à l'origine d'une communauté qui s'appelle la Communion de Béthanie. Vous pouvez nous en parler ?
Alors ce n'est pas une communauté de vie, c'est une fraternité de prière non résidentielle. Nous sommes un peu partout en France aujourd'hui. Nous nous retrouvons deux fois dans l'année, une fois au début de l'Avent, une fois au début de l'été, dans des monastères pour vivre un temps de retraite spirituelle. Notre communion est en lien fraternel avec des monastères. Notre propos est très simple. Notre propos, c'est simplement d'accueillir la présence du Christ dans nos vies. Nous ne sommes pas un ghetto fermé sur nous-mêmes. Il y a bien sûr parmi nous des personnes homosensibles et transidentitaires, transgenres. Il y a aussi des personnes hétéros qui sont sensibilisés par leurs enfants ou par des membres de leur famille à cette réalité. Donc notre propos, c'est d'accueillir le Christ dans nos vies, de prier, d'intercéder, de présenter au Seigneur les personnes qui nous sont confiées au fil des jours, et puis de vivre Béthanie, c'est-à-dire la simple parabole de l'amitié. Jésus à Béthanie vit simplement la parabole de l'amitié avec cette famille un peu atypique, deux sœurs et un frère, Marc, Marie et Lazare. Un jour, une prieure d'un monastère cistercien nous a dit cette phrase très belle. La vocation de la communion Béthanie, c'est de murmurer au cœur de chaque personne que vous rencontrez, là où tu es, j'essaye d'être. Nous ne sommes pas des spécialistes ou des théoriciens de l'homosexualité ou de la transsexualité. Nous ne sommes pas des théologiens moralistes ni des psychologues. Nous essayons d'être là où sont les personnes et de cheminer là où elles cheminent, très simplement. Je me réfère à frère Roger de Thésée, qui n'a jamais été un grand théoricien de l'œcuménisme. Et on lui a d'ailleurs reproché de son vivant. Mais il a eu cette intuition, des personnes ne se rencontrent pas, ne prient pas ensemble, eh bien, on va les réunir autour de la croix du Christ. Eh bien, nous, c'est ce que nous vivons.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à l'Église ?
Tout simplement, quelle est l'audace de rencontrer les personnes et de vivre un petit bout de chemin avec les personnes. Et à ce moment-là, vous savez, on quitte les idées toutes faites, on quitte les idéologies simplistes, de part et d'autre d'ailleurs. On se rencontre, puis il peut se vivre de nouvelles pages d'Évangile, me semble-t-il.
Et place à présent au commentaire de l'Évangile, le père Pascal Montavi nous propose son commentaire de l'Évangile du dimanche 1er septembre, 22e dimanche du temps ordinaire, Évangile selon saint Luc, 14:1-7:14, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé.
L'Évangile de ce jour propose deux enseignements. Le premier est relatif à l'humilité et le second à la gratuité. Tous deux sont extraits d'une histoire où la notion de repas est au centre. En premier lieu, Jésus conseille de ne pas s'asseoir à la première place si nous sommes invités à des noces. Quelqu'un de plus important pourrait venir et nous devrions, honteux, rejoindre la dernière place. Au contraire, il convient de choisir la dernière place afin de s'entendre dire « Mon ami avance plus haut ». Ce sera alors un honneur aux yeux de tous. Ce passage fut souvent mal compris. Il n'est pas un éloge de la dernière place, puisque Jésus lui-même reconnaît qu'il y aura de l'honneur à être invité à passer de la dernière à la première place. La position adéquate peut être la première. L'enseignement que Jésus vise est donc plus subtil. Il ne s'agit pas de choisir et de s'accrocher à la dernière place, mais plutôt de laisser le Seigneur élever celui qu'il a choisi autant voulu. Le cœur de l'enseignement de Jésus est donc sur le laisser-faire. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité que Jésus demande est plus exigeante qu'une simple recherche de la dernière place. Il est un appel à prendre la place que le Seigneur nous donne, qu'elle soit la première ou la dernière. Saint Paul a bien compris cela lorsqu'il dit « Je sais me priver comme je sais être à l'aise ». En tout temps et de toute manière, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme au dénuement. Dans un second temps, Jésus parle de la gratuité. Lorsque nous donnons un dîner, n'invitons pas nos amis, notre famille ou nos riches voisins, car alors nous attendrions une invitation en retour. Au contraire, invitons les pauvres et les estropiés, les boiteux et les aveugles, car ces derniers ne pourront rendre la politesse. Là encore, Jésus ne demande pas de ne plus manger entre amis ou en famille. Lui-même l'a fait souvent avec ses apôtres. Mais Jésus invite à aller plus loin. Tout d'abord, la liste des personnes qui ne peuvent pas rendre l'invitation est étrange. Pour les pauvres, c'est logique. Mais il y a aussi les estropiés, les boiteux et les aveugles qui peuvent très bien rendre l'invitation. Cette liste évoque dans la Bible tous ceux qui sont touchés en premier par la venue du Messie. Lorsque les disciples de Jean-Baptiste vont voir Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répond « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » S'adresser aux pauvres, aux aveugles et aux boiteux pour les inviter à un banquet est le signe que le Messie d'Israël est arrivé. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Jésus nous dit donc que le temps messianique est arrivé. Les pauvres sont accueillis et les malades sont guéris. En tant que baptisés, nous sommes appelés nous aussi à choisir la place que le Seigneur nous a réservée et à accueillir gratuitement les pauvres et à prier pour les malades.
Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. On se retrouve demain, où que vous soyez.